Bien, bonsoir, je vous souhaite la bienvenue sur cette table ronde donc consacrée à Jacques Bergier, s'aventurier et pionnier de la SF en France, avec donc deux invités prestigieux que sont Gérard Knaa et Joseph Alterac. Donc dans un premier temps, je vais donc présenter Gérard et Joseph. Vous les connaissez bien évidemment, enfin tout le milieu de la science-fiction connaît bien Gérard et Joseph, mais je crois que c'est utile quand même de redire quelques éléments de leur carrière, qui est vraiment une belle carrière pour tous les deux. Ensuite, je vous proposerai une présentation de Jacques Bergier, parce que je crois qu'il est bon d'avoir quelques éléments là aussi de connaissances. On a préparé donc un diaporama où vous allez avoir un petit peu en vrac, des photos de Jacques Bergier aux différents âges de sa vie. Également, on va dire, ses titres les plus intéressants. Hein. Jacques Bergier a énormément publié. On n'a pas tout mis sur ce diaporama, mais enfin, vous allez quand même avoir quelques titres. Nous avons amené également, je vous lirai, si on a le temps, hein, je vais voir si on a le temps, mais quelques très très courts passages de son autobiographie « Je ne suis pas une légende ». Voilà, et puis bien sûr du célébrissime donc Matin des magiciens que vous avez bien sûr réédité en livre de poche chez Folio si cette œuvre vous intéresse. Et puis Joseph, je crois que tu peux nous présenter très très rapidement la réédition donc des articles.
L'Aube du magicien volume 1. En fait, c'est une anthologie d'articles de Jacques Bergier des années 50, des années 50 jusqu'aux années, années 60, jusqu'à l'époque du Matin des magiciens, un peu avant en principe, et agrémenté d'articles critiques, donc des chroniques, pas seulement de Jacques Bergier, mais sur Jacques Bergier, sur le Matin des magiciens, notamment la grande controverse qu'il y a eu l'apparition du Matin des magiciens dans la revue Fiction, à laquelle a participé Gérard Klein. Également un article très intéressant, très instructif de Jean-Luc Buard sur le problème qu'on évoquera sans doute en passant de la prétendue correspondance de Jacques Bergier avec Lovecraft, dont il a parlé assez souvent. Et un deuxième volume, et malheureusement, n'a pu être, pour des raisons techniques, n'a pas pu être présent à Sèvres cette année, donc je pense que...
Oui, mais qui est en prévision.
Oui, il est presque chez l'imprimeur, hein, il finit d'être mis en page, donc il y aura un volume 2, et qui contiendra, en plus d'articles de Bergier comme celui-là, certains difficiles à trouver, un document tout à fait étonnant qui est la correspondance entre Jacques Bergier et Pierre Versin, l'auteur de la célèbre encyclopédie, où on voit Jacques Bergier initiant Pierre Versin aux merveilles de la science-fiction française ancienne, du merveilleux scientifique français, si l'on veut. Voilà, qui est un document à la fois touchant et instructif.
Merci Joseph. Alors, présentation donc de nos deux invités pour cette table ronde. Donc, Joseph Alterac, qui est né... Alors, pardon Gérard, je n'ai pas mis dans l'ordre chronologique par rapport aux aînés, donc je mets le plus jeune d'abord. Donc Joseph Alterac, qui est né en 1957, donc il a appris à lire dans les albums Tintin, notamment on a Marché sur la Lune, le journal de Mickey et les romans de Jules Verne, avant d'enseigner les mathématiques, donc un parcours quand même très, très éclectique. Il est l'auteur de plusieurs essais sur la science-fiction en particulier et l'imaginaire scientifique en général, donc par exemple H.G. Wells, Parcours d'une œuvre chez Ancrage, ou Van Vogt, Parcours d'une œuvre également chez Ancrage, ou encore bien sûr l'ouvrage absolument indispensable de référence sur les terres creuses en collaboration avec Guy Coste, et puis bien sûr donc ce recueil commenté de textes sur Jacques Bergier, L'Aube du magicien, qui va paraître chez L'Œil du Sphinx. Le premier, c'était 2008, hein, c'est ça, je crois.
Oui, je crois, oui.
Oui, il me semble. Voilà. Donc, il dirige chez Ancrage les collections d'essais Science Fiction et Cahiers d'études Lovecraftiennes. Il exerce également la fonction de secrétaire du prix Rony-Aîné, qui couronne annuellement, donc à l'occasion de la Convention française de science-fiction, le meilleur roman et la meilleure nouvelle de science-fiction francophone. Je me permets une toute petite annonce concernant la convention, si cela vous intéresse, concernant la convention donc française de science-fiction, la 43e, qui aura lieu cette année à Mérignac, donc dans la communauté urbaine de Bordeaux. Et je suis une des co-organisatrices. Donc si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez venir me voir après la table ronde pour que je prenne éventuellement votre inscription. Voilà, je ferme la parenthèse. Gérard Klein, né en 1937, Gérard Klein est écrivain, économiste, éditeur, le grand veilleur de la science-fiction d'après Michel Jury. Voilà. Après une première carrière d'économiste dans le groupe de la Caisse des dépôts, il choisit d'entrer dans l'édition comme conseiller de Robert Laffont, renouant avec une précoce vocation d'écrivain. Il a créé et dirige toujours aux éditions Robert Laffont la collection, la prestigieuse collection Ailleurs et Demain, et au Livre de Poche, la série spécialisée dans le même domaine. Il avait déjà co-dirigé au Livre de Poche la grande anthologie de la science-fiction qui fit date. C'est aussi un critique et spécialiste reconnu du monde universitaire grâce à ses articles et préfaces. Il a publié une quinzaine de livres, romans, recueils de nouvelles, essais et un grand nombre d'articles, pour la plupart consacrés à l'avenir sous toutes ses formes, prévisions, prospectives, science-fiction. Entre autres, quelques titres au Livre de Poche, La loi du talion, Histoire comme si, Les seigneurs de la guerre, Le rêve des forêts, Les voiliers du soleil, Le long voyage, ou encore chez De Noël, Les perles du temps, où le temps n'a pas d'odeur. Certaines de ses œuvres ont été traduites en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en russe et en roumain. Et le plus grand titre de gloire de Gérard est d'avoir fourni en 1992 un sujet du bac sur le thème « Science-fiction et prospective ». Voilà, donc après la présentation de nos invités, je vais donc vous présenter, enfin brièvement, et non parce que le problème avec Jacques Berger, c'est que c'est un personnage extraordinaire qui a travaillé dans plusieurs domaines, bien sûr dans la science-fiction, mais pas que. Et on va évoquer avec Joseph et Gérard par la suite, évidemment, le parcours de cet homme qui est assez extraordinaire et qui mérite bien sûr d'être connu. C'est également un scientifique. Alors, Jacques Berger est né le 8 août 1912 à Odessa, en Ukraine. Les vicissitudes de la révolution bolchevique vont l'amener en France. Il est mort en 1978 à Paris. Sa mémoire extraordinaire lui a permis de maîtriser 14 langues modernes et anciennes, dont l'araméen. Il lisait jusqu'à 10 livres par jour. Sur sa carte de visite, il se présentait comme amateur d'insolites et scribe de miracles. Hergé va l'immortaliser dans le personnage de Mick Esdanidov, dans l'album de Tintin, vol 714 pour Sydney. Jacques Berger est à la fois scientifique, ingénieur, chimiste, alchimiste, espion, journaliste et écrivain de nationalité française et polonaise. Il a fait ses études supérieures à l'Institut supérieur de chimie à Paris durant les années 1930. Et dès 1936, Jacques Berger, par exemple, entrevoit les possibilités de l'atome avec ses travaux entrepris avec André Heilbronner. La guerre de 1939-45 va mettre en suspens ses recherches. Une autre facette de Jacques Berger se dessine peu à peu, son talent pour l'espionnage, l'intelligence. On y reviendra peut-être avec Joseph, parce que Joseph m'a dit justement que Jacques Berger, c'était quelqu'un qui inventait aussi un petit peu sa vie, et qu'il fallait donc être, vous avez vu, c'est un personnage très, très éclectique, et il fallait donc être très prudent avec tout ce qu'on pouvait, je pense, avancer en termes biographiques donc, sur Berger. Alors, lors de ses voyages d'affaires en Allemagne en 1935, Jacques Berger en profite pour distribuer des tracts anti-nazis à la sortie de théâtre. La signature de l'armistice en 1940 par Pétain sera pour lui l'occasion d'entrer en résistance. Il y fait la connaissance de son futur grand ami François Le Lyonnais. Finalement, Jacques Berger crée le réseau Marco Polo, le premier réseau d'espionnage scientifique. Son but est de localiser les armes novatrices des Allemands. Les informations collectées par un ingénieur soviétique, puis transmises à Londres, seront à l'origine de l'opération Hydra, le bombardement de la base d'expérimentation des V2, donc le 18 août 1943. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, les informations recueillies par Marco Polo seront vitales dans la lutte contre les missiles et les fusées, les V1 et les V2. Jacques Berger s'occupe principalement de gérer les rares postes émetteurs de Marco Polo sur Lyon. Il est arrêté le 23 novembre 1943 par la Gestapo et soumis à la torture. Il est enfermé dans les camps nazis de Neuobrem, puis Mauthausen, de mars 1944 à février 1945. Alors là, je me permets de lire un tout petit extrait donc, de son autobiographie sur la déportation. Je vous lis donc quelques passages. Aucune torture n'a pu avoir raison de cet homme de fer. Ainsi s'exprime à mon sujet l'historien allemand Julius Mader. Ce sera la seule allusion à la torture dans ce récit, car je n'ai pas l'intention de la décrire, une telle description ne pouvant intéresser, à mon avis, que les sadiques. Alors Jacques Bergier, dans son autobiographie, donne justement quelques solutions pour essayer de survivre dans un camp de concentration. Et quand on a lu finalement beaucoup de témoignages sur cette expérience-là, cette terrible expérience, j'ai trouvé que celle de Jacques Bergier était quand même particulièrement intéressante. La façon de se conduire en enfer repose sur un certain nombre de règles simples. Abandonner tout espoir. L'utilisation au maximum du temps. Et là, en tant que spécialiste de jury, je me suis dit, Michel Jury, en créant l'éternité subjective, a dû penser à ce qu'a dit Bergier. Le temps intérieur peut s'allonger à l'infini. Ainsi, l'intervalle entre deux coups, lors d'un matraquage, peut être augmenté de façon à se préparer au suivant et à effacer partiellement les effets du coup précédent. On peut très bien trouver le temps dans des intervalles non mesurables, même par les instruments de la physique moderne, pour réfléchir, évaluer la situation, se souvenir. Et troisième élément pour survivre en enfer, ne jamais parler avec les démons. Les gardiens peuvent faire souffrir, mais ils sont impuissants à obliger un détenu à communiquer avec eux. Et enfin, troisième élément de sa biographie, Jacques Bergier est connu du grand public comme le co-auteur avec Louis Pauwels du célébrissime « Matin des magiciens » paru en 1960 et le co-fondateur de la revue Planète. Les nombreux ouvrages de Jacques Bergier mêlent des éléments, alors c'est de ça dont nous allons discuter après, authentiquement scientifiques à d'autres relevant de la science-fiction et du fantastique. Il co-dirige également plusieurs collections de science-fiction. Avec son vieux complice Georges Hilaire Gallet, il co-dirige plusieurs collections chez Albin Michel de 70 à 75, dont la collection science-fiction de l'éditeur. Bergier est également co-directeur de la collection Les classiques de l'ASF au Club du livre d'anticipation aux éditions Opta avec Michel Demousse de 1968 à 1970. On lui doit évidemment d'avoir fait connaître et traduit Lovecraft en France. Voilà. Alors, il faudrait évidemment parler, mais je n'aurai pas le temps ici, puis je veux évidemment donner la parole à nos invités ensuite, en disant que le modèle absolu de Jacques Bergier est Charles Fort, auteur du Livre des Damnés en 1919, qui enquêtait sur divers phénomènes inexpliqués relatés dans les journaux. Exemple, pluie de grenouilles, de sang, de gélatine, observation d'objets volants non identifiés, disparition mystérieuse. Et donc, comme Charles Fort, Jacques Bergier estimait que la science a tendance à se fermer à tous les phénomènes qui viennent bouleverser ses convictions. Les domaines de prédilection de Jacques Bergier sont cependant plus ésotériques que ceux de Fort, l'alchimie, les civilisations ont disparu et la parapsychologie. Alors la première question que j'ai envie de poser à nos deux invités, c'est pourquoi peut-on considérer Jacques Bergier comme un s'aventurier ?
Il y a eu une association qui n'a d'ailleurs, à ma connaissance, jamais vraiment existé, des aventuriers qui réunissaient des gens comme Jacques Bergier, Stephen Spriel, alias Michel Pilotin, Pierre Cast, et puis quelques autres. Je suis arrivé un petit peu après sa création et donc un peu après sa disparition, en 1953, ou plus probablement au printemps 1954, à la librairie de la Balance, où elle avait déjà laissé un souvenir à la fois défunt et impérissable. Ce que je voudrais dire à propos de Bergier, je suis un peu étonné de quelques-unes des indications que tu as données, parce que j'ai donc très très bien connu Jacques Bergier entre 1954 donc, et tout spécialement à partir de la rentrée scolaire 1954, parce que je faisais mes études à ce moment-là à Sciences Po, et pratiquement tous les soirs de la semaine, après Sciences Po, je passais à l'Ivraie de la Balance, où je m'abordais facilement pendant une heure ou deux avec Bergier, quand je n'allais pas ensuite dîner avec lui, jusqu'à mon départ pour l'Algérie en 1960, et au moment où nos relations se sont un peu refroidies à la suite de ma critique assez virulente du Matin des magiciens. Alors, quant à l'intérêt de donc j'ai longuement parlé avec lui. Enfin, je dirais qu'il m'a appris énormément de choses, et en particulier, ce qui peut sembler paradoxal, que ça a été mon grand maître en matière de scepticisme. Parce que j'ai entendu Natacha dire que Bergier attachait une importance particulière à l'alchimie et à la parapsychologie. En ce qui me concerne, je peux dire que je l'ai entendu 1000 fois, ou au moins 150 fois, dire qu'il ne croyait absolument pas à la parapsychologie, ni à la télépathie, ni à la télékinésie, ni à rien de tel. Il y avait trois sujets qu'il rejetait avec la plus grande violence. Alors, on peut certainement prouver de sa part, comme il a dit et son contraire, des affirmations.
Oui, c'est ça, en fait, c'est pas un personnage paradoxal.
Il y avait trois sujets qu'il rejetait avec une extrême violence. Les soucoupes volantes, il ne croyait pas une seconde. D'ailleurs, il n'y a pas trace d'histoire de soucoupes volantes dans le Matin des magiciens. La parapsychologie en général, ou en particulier la télépathie, pour des raisons de physique. Et le troisième sujet qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelait peut-être pas tellement à l'époque l'intelligence artificielle, mais enfin disons l'intelligence artificielle. Le terme est apparu au milieu des années 50, inventé par Marvin Minsky pour obtenir des gros financements du gouvernement américain. Enfin, Bergier ne croyait absolument pas qu'il y aurait, à vue humaine au moins, de robots intelligents. Au moins trois domaines où il a manifesté de manière constante devant moi un scepticisme particulier.
Alors, ce qui est intéressant, et puis je donne la parole tout de suite à Joseph, c'est que par ces remarques, en fait, ça nous ramène tout de suite à un problème qui est celui du Matin des magiciens, qui a été coécrit donc par Louis Poels et Jacques Bergier. Et évidemment, on n'aura pas le temps de se pencher sur cette problématique-là, mais réfléchir à finalement qu'est-ce qui est de Jacques Bergier et qu'est-ce qui est de Poels dans ce livre, parce que tu parlais de l'alchimie, mais il y a quand même un très gros chapitre qui est consacré à l'alchimie dans le Matin des magiciens, et donc qui apparemment n'a pas été finalement, enfin, je ne sais pas si Jacques Bergier a dû accepter ce chapitre-là.
C'est un livre qui pose problème et qui, au fond, n'a aucun intérêt. Il commençait par ajouter ça. Bon, lire ça, parce que pas la peine d'en faire un faux grand livre, c'est sûrement un faux livre. Pour autant que je sache, Bergier et Powell se sont rencontrés vers 1953. Et Powell, ce qui était, j'ai un peu connu, mais beaucoup moins bien que Bergier, et pour lequel j'avais infiniment moins de sympathie, était un peu à la recherche d'un personnage, je veux dire, de son propre personnage. Pour elle, ça avait pratiquement échoué comme écrivain, malgré un ou deux romans de bonne facture, sans plus. Il avait déjà, je crois, dans la presse, un poste assez important. Il avait dirigé une revue... Non, il a rencontré Lajoie, rencontre en 1959. Je suis persuadé qu'il avait rencontré Powell avant. En 1959, le Matin du magicien était entièrement écrit, ouais. Donc ils n'ont pas fait ça en 15 jours. Alors, Powell donc était à la recherche de ce qu'il pouvait bien faire dans la vie. Je crois qu'il dirigeait quelque chose comme Marie Claire ou enfin une revue féminine. Et il se voyait modestement comme, non pas l'héritier, parce qu'il ne pouvait être héritier de personne, mais disons comme le successeur naturel d'André Breton. Donc, il cherchait un domaine où comment apporter des révélations au monde. Et quand il est tombé sur Jacques Bergier, et qu'il a écouté Jacques Bergier, comme tous ceux qui rencontraient Bergier l'écoutaient, raconter ses histoires, souvent fort sérieuses, souvent complètement abracadabrantes, il a compris très vite qu'il avait là un sujet extraordinaire. Donc, il a noté des tas de choses. Que Bergier disait, et il a réuni tout ça dans un livre qui est d'ailleurs, parce que je l'ai relu il y a quelques années attentivement, et qui est d'ailleurs assez mal écrit. Et il y a un autre aspect curieux de ce livre, c'est qu'il est fait en partie de collages, ce qui était beaucoup moins évident à l'époque qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas l'informatique, en fait, ça, mais les photocopieuses, même si elles étaient monumentales, existaient déjà. Et j'ai retrouvé par exemple un passage qui est intégralement pompé dans un livre d'Adam Sky et John Leslie, un journaliste anglais, sur les soucoupes volantes et les prétendues apparitions de la Vénusien à Adam Sky. Il n'est pas du tout question dans la citation de soucoupes volantes, mais il est question de je ne sais plus très bien quoi, mais c'est mot à mot pompé sur la traduction. Il y aurait un travail à faire à la fois inutile et lassant, mais pour décomposer, déconstruire, c'est le mot à la mode, le matin des magiciens, parce que c'est une espèce de patchwork très désordonné de tout et n'importe quoi. Alors si tu me laisses encore un instant
oui, parce qu'on va laisser la parole à
Joseph, on va passer à Joseph. Sur l'autre chaîne, sur l'autre plan, celui des situations disparues. Oui, ça amusait beaucoup Bergier, essentiellement au travers des grands écrivains scientifiques qui ont été Lovecraft et Abraham Merritt. Mais il y a un aspect qu'avec le retard, enfin plus exactement qu'avec les 50 ans de décalage, on peut considérer un peu différemment, c'est que à l'époque, et même encore aujourd'hui, nous avons très très peu de connaissances sur l'état réel des technologies, enfin des techniques, et même des sciences assez fondamentales de l'Antiquité. Et je prends deux exemples qui sont cités dans le Matin des magiciens, à juste titre. Le premier, qui est le plus simple, c'est celui des piles électriques qui existent effectivement, ou qui existaient parce qu'une guerre a dû les détruire dans un musée du Liban, sur lesquels il y a eu plusieurs travaux scientifiques, et qui montrent qu'elles sont anciennes et qu'elles ont servi vraisemblablement à des travaux de dorure. L'autre exemple qui est beaucoup, beaucoup plus intéressant, c'est celui de la machine d'Eleuthera, je crois. C'est bien ça qu'on a retrouvé dans les fonds auprès de l'île de Crète. Ce sont les débris d'une machine de l'époque d'Archimède, c'est-à-dire de l'Archimède, c'est quoi, de 200 ans avant notre ère,
à peu près. Oui, c'est ça.
Ce sont des débris d'une machine extraordinaire qui a été depuis, et assez récemment, ces toutes dernières années, analysée dans le détail. Il en a été construit, fabriqué, des reconstructions. Et c'était une machine très complexe, destinée à prévoir les positions des astres, et en particulier, et pas seulement, les éclipses. C'est une machine extrêmement complexe, parce que, par exemple, elle comportait des engrenages un nombre impair de dents, ce qui est techniquement difficile à réaliser. Il n'y a aucune espèce de raison que cette machine ait été absolument la seule qui a été réalisée à cette époque. Donc ce que je veux dire, c'est que nous connaissons très très mal l'état réel des techniques. Par exemple, nous ne savons pas du tout comment ont été construites les pyramides ou un certain nombre de grands monuments. Ce qui ne veut pas du tout dire que c'était des corps d'esclaves qui le faisaient, ni non plus de prêtres qui chantaient et soulevaient magnétiquement les pierres géantes. Ça veut simplement dire que nous ne savons pas comment ils faisaient, parce qu'il n'y a pas eu de texte. Il y a un aspect, et ce sera le dernier sur lequel je vais insister, c'est que si nous ne le savons pas, ce qui posait toutes sortes de questions à Berger, c'est parce que l'Antiquité a été essentiellement, et est toujours essentiellement étudiée par des littéraires. Et ces littéraires n'ont pas la culture scientifique de base qui leur permettrait de se poser les bonnes questions. Il y en a d'autres, ils ont une érudition considérable, mais ils se sont jusqu'à une date très récente jamais posé la question du comment on faisait et comment on pouvait retrouver dans les manuscrits et les techniques. Par exemple, un des fondateurs de la pensée scientifique, c'est Anaximandre, 6 siècles avant notre ère, il y a un chouïa de pages. Je ne parle pas des textes parce qu'on les en a très peu, mais dans la Pléiade consacrée au prince socratique que je connais bien, mais il a fallu un très beau livre de Carlo Rovelli, qui est un physicien, pour replacer Anaximandre dans son temps et dans son idée fondamentale qu'il fallait chercher dans la nature et pas du côté des dieux l'explication des énigmes de la nature. Voilà, j'ai dit.
Merci Gérard. Alors Joseph, en fait, je voulais te poser plusieurs questions. Alors la première, c'était est-ce que tu as connu Jacques Bergier et dans quelles conditions? Et puis la seconde, à ton avis, quelle fut son importance finalement pour la science-fiction et la science-fiction française. Parce que là, on a finalement, on a évoqué beaucoup, beaucoup de sujets, hein, parce que c'était ce personnage pluriel, polymorphe, finalement, on peut dire, qui était Jacques Bergier. Voilà, qu'est-ce que...
Alors, non, malheureusement, je n'ai pas connu Jacques Bergier. Je l'ai juste croisé une fois dans la librairie Azatote, tenue par M. de Reipper. Je ne sais plus la date, mais c'est finalement peu de temps avant la disparition de Jacques Bergier. Dans les années 70, je l'ai juste croisé. Il parlait avec M. de Reipper. Moi, j'étais entré dans la toute petite boutique. C'est une toute petite boutique parisienne. Hein. Et je n'osais rien dire. Et puis, quand il est parti, M. de Reipper m'a dit « Vous savez qui était là ?» J'ai dit « Ah oui, bien sûr, Jacques Bergier. » Voilà, c'est ma seule rencontre avec Jacques Bergier. Donc, je ne l'ai donc pas du tout connu. En revanche, oui, j'ai eu la chance de discuter avec beaucoup de personnes qui l'ont connu ensuite. Hein, et lire les textes, ça, c'est une autre chose. Je reviens sur la question du s'aventurier à laquelle je peux répondre de mon côté. Hein, c'est en fait, c'est une chose que j'explique dans une préface du volume 2 donc, de l'œuvre du Matin des magiciens. C'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a dans ce volume 2 la correspondance entre Jacques Bergier et Pierre Versin. Et quand on lit cette correspondance, on retrouve exactement le même esprit qui existe aujourd'hui dans une association tout à fait libre qu'on peut trouver sur un site sur Facebook hein, qui est le site des aventuriers et qui est un site où se retrouvent tous les collectionneurs, les amateurs de science-fiction essentiellement, enfin, plutôt tournés vers les amateurs on va dire de science-fiction ancienne, hein, des choses... des textes d'avant-guerre, des vieilleries, de ce qu'on appelle le merveilleux scientifique, enfin, il y a toute une série de noms. Et on trouve, en lisant cette correspondance entre ces deux personnages, on trouve vraiment le même esprit que l'on trouve aujourd'hui lorsque l'on va sur Facebook et que l'on consulte le site des aventuriers qui est mené de main de maître par... Jean-Luc Boutel, je pense qu'il est quelque part, semble l'avoir vu passer, peut-être Jean-Luc Boutel, non, il n'est pas dans la salle. Voilà, bon. Donc, voilà, pour moi, c'est ça l'aspect aventurier. Bergier, c'est un amateur de science-fiction, et c'est quelqu'un qui a lu de la science-fiction, avant même qu'on utilise le terme, dans les années 20, 30, on va en reparler de ce qu'il a lu, mais il a une connaissance de la science-fiction américaine du temps, ce qui est pas courant en France, mais il lit aussi la littérature populaire française du temps et il connaît des auteurs évidemment comme Jean Dagrève, Jean Lahire, ces personnages-là, il les connaît très bien, il lit les collections populaires du genre Taillandier Bleu où on trouve par-ci par-là de la science-fiction, il connaît Bousnard, il connaît Louis Jacquelot, des auteurs populaires. D'ailleurs, Louis Jacquelot, c'est assez drôle parce qu'il a lu Jacquelot, qui est un auteur tout à fait oublié aujourd'hui, un peu vernien, on va dire. Il le lit comme Bousnard en Russie, quand il est gamin en Russie, parce que c'est un auteur qui est comme Bousnard, comme Jules Verne, et traduit en Russie. Et donc, il a des souvenirs de lecture de Jacquelot, mais c'est des souvenirs de lecture en russe. C'est assez amusant. Donc voilà, c'est ça l'aspect aventurier, c'est cette passion pour un petit peu d'archéologue de la science-fiction. Voilà, c'est un esprit un tout petit peu différent de celui des aventuriers originaux. Hein. Bon, voilà la raison pour moi du fait que c'est un aventurier. Alors je ne sais plus quelle était l'autre partie de la question à part le... j'ai oublié.
Quelle fut son importance en fait dans le milieu de la science-fiction française?
L'importance, bon, voilà, c'est, Gérard Klein pourrait sans doute le dire mieux que moi. Et c'est quelqu'un qui a donné beaucoup à beaucoup de gens. Il a fait découvrir considérablement. Je pense qu'on n'a pas idée aujourd'hui. Vous êtes des lecteurs, des passionnés, etc. On n'a pas idée de l'ignorance de ces domaines. À l'époque de Jacques Bergier, dans les années 50. Et il y a une double ignorance, l'ignorance des textes de science-fiction, de fantastique, dont il a fait anglo-saxon, et pas seulement d'ailleurs, dont il a fait la promotion. Et comme le faisait remarquer Gérard Klein, l'ignorance scientifique considérable de tout un public qui permettait à Jacques Bergier de briller et de raconter aussi bien, de se livrer à de l'information scientifique assez pointu, assez fine, et en même temps à se livrer à des joyeux canulars que ses interlocuteurs étaient incapables de démonter et qu'il gobait. Hein. Donc il a ce double, Il est très compétent, au sens où il connaît très bien la science-fiction, à une époque où très peu de gens la connaissent. Il connaît la science, il sait ce que c'est, il sait ce que c'est que la pensée scientifique. C'est effectivement un sceptique, c'est un matérialiste dur. Et il brille dans un monde qui est ignorant dans ces domaines. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on s'en souvient encore aujourd'hui. Je pense qu'il a initié à la science-fiction et au fantastique aussi un nombre considérable d'éditeurs du temps. Et ça, je pense que Gérard Klein pourra nous le dire avec
Oui, la position de Bergier vis-à-vis de l'apparition de la science-fiction en particulier américaine en France est quelque chose de tout à fait paradoxal. Parce que quand on creuse un peu, il reste toujours dans l'ombre ou presque, il y a deux ou trois exceptions que je citerai, mais il est pratiquement à l'origine ou près de l'origine de tout ce qui a été créé à ce moment-là. Il est à l'origine de la fiction, il conseille Boris Renault, que j'ai bien connu aussi, et il va participer à la rédaction de la revue fiction pendant des années. Il est certainement à l'origine de Présence du futur, c'est lui qui introduit Lovecraft, en tout cas avec insistance. Il est en partie aussi à l'origine du rayon fantastique, c'était un grand ami de Stephen Spriel. Il connaissait aussi Gallet, avec qui il va beaucoup plus tard diriger une collection. Donc chaque fois, on trouve sa trace. Et en même temps, dans aucun de ces lieux, sauf dans une certaine mesure en fiction, il n'a réussi à s'installer et à avoir la posture ou la position du directeur de collection qu'il aurait probablement rêvé d'être. Je crois que ça s'explique par quand même deux raisons. Bon, d'abord, il est trop étranger au milieu de l'édition, qui est faiblement pénétrable. Mais ensuite, il était quand même extrêmement désorganisé. Enfin, pour diriger une collection, il ne suffit pas de dire un jeune tel est excellent, il faut absolument le traduire. Bon, il faut s'occuper des traductions, de l'édition, enfin de toutes sortes de textes. Et ça, il était tout à fait incapable de le faire, il faut le reconnaître. En tout cas, il a joué un rôle séminal, comme on dit, absolument fondamental. La seule collection d'importance où je crois qu'il ne joue aucun rôle, c'est celle de l'anticipation du Club Noir. Là, je ne lui vois pas de rôle. Et tout le reste, oui, il a conseillé, il a été présent, il a poussé à la roue, et il n'a pas obtenu finalement la reconnaissance qu'il pouvait espérer. Donc, donnons-la lui aujourd'hui.
Alors, pour rebondir sur ce problème d'absence de reconnaissance, c'est une interprétation qui est faite par Jean-Luc Buard dans l'article qu'il a consacré au problème de l'énigme de la correspondance entre Jacques Bergier et Lovecraft. Bon, en fait, pour résumer, Jacques Bergier a toujours dit, sans trop donner de détails, qu'il avait correspondu avec Lovecraft avant-guerre. Il avait écrit, Lovecraft lui avait répondu, il y a même une célèbre citation concernant Lovecraft lui répondant qu'à propos d'une nouvelle, la musique d'Erizan, où Lovecraft esquisse une très vague description d'une rue en principe parisienne. Bergier trouve que ça ressemble vraiment beaucoup à Paris. Il écrit à Lovecraft pour lui demander comment il pourrait décrire aussi bien un coin de Paris. Et Lovecraft lui répond, je l'ai visité en rêve. Bon, c'est resté légendaire. Des chercheurs américains, enfin, qui n'étaient pas au courant à l'époque, ont même repris cette citation. Bon, c'est une invention de Bergier. Il n'a pas correspondu avec Lovecraft. Cependant, ce qui est déjà assez extraordinaire, c'était un lecteur de Werthels et d'autres revues de science-fiction dans les années 30. Et on a deux lettres de Jacques Bergier dans le courrier des lecteurs de Werthels. Précisément, dans une première lettre, il vante quelques auteurs en mettant l'accent sur Lovecraft, qui lui paraît un écrivain génial. Et la deuxième lettre, c'est hélas une lettre où il regrette et s'attriste de la disparition de Lovecraft, qu'il a sans doute appris en lisant la revue, hein, où il refait ses compliments à Lovecraft et se lamente de la disparition de cet auteur en prévoyant que c'est un auteur dont on se souviendra.
Sans quoi, effectivement, il avait raison. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, le Fraft n'est connu que par les lecteurs de Huertels et les amis de le Fraft, enfin les correspondants de le Fraft. Voilà, donc ça, c'est faux. Il n'a pas correspondu avec le Fraft, mais c'est devenu ce petit mensonge de Bergier, est un peu peut-être une espèce de petite compensation, quelque part, un peu, pour cette espèce de manque de reconnaissance. Hein. C'est un personnage, certainement, qui devait être à mon. Devenu un peu aigri, un peu amer de la manière dont il n'avait pas tellement récolté les fruits de son travail. Et bon, l'association avec Powès lui permet de briller à nouveau et il se venge un petit peu avec ce mensonge sur Lovecraft. Hein. Lovecraft, il ne veut quand même pas lâcher. Il tient à ce qu'on se souvienne que c'est lui qui l'a découvert, qui l'a fait publier en France. Et donc, il force le trait avec cette transformation d'un courrier à la revue Huertels en correspondance avec Lovecraft. Là, on voit peut-être hein, une manifestation de ce dépit de la part de Bergier. Hein, donc ce petit mensonge prestigieux le console un peu, hein, lui attire l'admiration de pas mal de gens.
Je crois que y a un point très important pour ceux qui n'ont pas connu Bergier. C'est que, à côté d'une culture scientifique considérable, hein, c'est quelqu'un qui a appris le rudiment de la physique quantique, je ne suis jamais devenu physicien, hélas, je me souviens encore d'un certain nombre de choses qu'il m'a dites à l'époque et qui étaient à peine connues ou qui se sont révélées exactes par la suite. Et à côté de ça, c'était un conteur. Bergier était un juif d'Odessa et il faut savoir ce que c'est qu'un conteur juif d'Odessa. C'était un conteur extraordinaire qui était capable d'entremêler dans un tissage impossible à défaire des éléments de vérité et des éléments très joliment inventés ou empruntés à d'autres fictions, celles des très très nombreux écrivains de fiction, de science-fiction, de fantastique et tout le reste qu'il avait lu. Donc c'était un conteur. Et à partir du moment où il est, je crois que c'est un peu ce qui s'est passé, sans du tout savoir le fond des choses, pour cette histoire de correspondance avec Lovecraft, mais dans bien d'autres cas, à partir du moment où il avait dit une fois quelque chose de parfaitement déplacé, et où on le lui rappelait, il était capable de s'accrocher, enfin il ne se déjugeait pas. Alors ça conduisait évidemment à des situations plus que paradoxales. C'était un conteur extraordinaire. Et on voit bien comment Powels, alors c'est dit, la rencontre de Bergier chez Powels, c'est vraiment le mariage de la carpe et du lapin. Bergier, enfin, est un homme qui a fait la résistance, qui après la guerre, dont les conditions d'existence sont très mal connues, mais enfin qui après la guerre est soutenu par les compagnons de route du Parti communiste, en particulier il publie beaucoup pour ce livre dans la revue Horizon, également dans Constellation. Il a un peu de mal à publier dans la presse scientifique, la vulgarisation scientifique de l'époque en dehors de ça, ce qui est d'ailleurs un peu surprenant. Mais il adhère à l'association des écrivains scientifiques. On a donc ce personnage. Et puis de l'autre côté, on a qui est donc plutôt à gauche, qui est un farouche anticommuniste, mais russophile convaincu, enfin important. C'est un personnage peut-être déjà très paradoxal là-dessus. De l'autre côté, on a Powels, qui est déjà un homme fortement ancré à droite, qui le sera de plus en plus. On a vraiment qui n'a aucune culture scientifique, je ne crois pas que ça va changer un plomb, et on a beaucoup de mal, on comprend très très bien la fascination que Bergier a pu exercer sur Powell, c'est comme je l'ai dit déjà, l'usage, enfin la compréhension de l'usage qu'il pouvait en tirer, mais on a beaucoup de mal, Bergier avait besoin en effet de reconnaissance. Je ne l'ai jamais connu amer ou aigri. Hein. Enfin, je voyais qu'il n'avait pas été par derrière lui. Mais enfin, il avait certainement besoin de reconnaissance et qu'il n'avait pas obtenu par ses écrits, en tout cas jusque-là. Et Powels lui a apporté, ça lui a servi de porte-voix en quelque sorte, C'est vraiment un peu l'aveugle et le paralytique, sauf qu'on ne sait pas très bien qui est le paralytique ni l'aveugle dans cette histoire.
Justement, Gérard, ce que dit Wip Wells dans la préface, donc je vous lis juste le petit passage. Tous ceux qui ont approché cet homme à la mémoire surhumaine, à la dévorante curiosité et, ce qui est plus rare encore, à la constante présence d'esprit, me croiront sans peine et quand je dis, quand un lustre, Bergier m'a fait gagner 20 ans de lecture active. Dans ce puissant cerveau, une formidable bibliothèque est en service. Le choix, le classement, les connexions les plus complexes s'établissent à la vitesse de l'électronique. Le spectacle de cette intelligence en mouvement n'a jamais manqué de produire en moi une exaltation des facultés sans laquelle la conception et la rédaction de cet ouvrage m'eussent été impossibles.
Voilà. Alors, en même temps, on voit dans la prose de Powells toute l'exagération. Bergier était quelqu'un de personne extraordinaire, s'il n'y a rien sur le main. Sa mémoire, on l'a souvent prise en défaut, etc. Et en disant ça, c'est quand même j'ai beaucoup aimé, beaucoup admiré. Il faut prendre mes propos pour ce qu'ils valent. Mais simplement, c'est cette espèce de prose amphigourique qui revient rien. C'est une façon. Il ne faut quand même pas oublier que Powells a été un disciple malheureux, mais enfin, néanmoins, de Bergier. Bon. Et il y avait chez Powells, puis chez d'autres de cette époque, et peut-être même des temps actuels, la recherche du prophète qui allait ouvrir les voies, etc. Alors Bergier n'a été absolument rien de tel, mais Powells a pu le faire semblant, ou il ne faut pas qu'il l'ait pris sérieusement pour ça, mais a pu faire semblant de... bon, j'ai pas mal fréquenté, parce que je connaissais bien Bergier, je connaissais bien Jacques Sternberg, les locaux de Planète, et donc j'ai vu souvent Powells, qui d'ailleurs essayait de m'attirer là-dedans, je voulais que je sois l'opposition de Sa Majesté, puis de toute façon je ne me laisserai jamais convaincre. Et tout était faux, et tout était absolument faux. Mais d'ailleurs, Jacques Sternberg, je puisse lancer le mot, je vais citer un exemple. Il y a, dans Planète, il y a deux photos, l'une d'un tas de sable qui ressemble vaguement à un pigeon mort, et puis une autre photo représentant un pigeon mort. Et la légende, c'est à quelques mètres. Synchronicité, coïncidence. Bon, c'était deux photos complètement différentes, venant de sources différentes, d'agences différentes, photographes différents, parfois plus différents. Simplement, cherchant bien, on trouve toujours un moyen de rapprocher des trucs. Tout Planète était comme ça. Bon, et Bergier s'en foutait, parce qu'il avait un rapport complexe comme conteur, il avait un rapport complexe avec la réalité, avec la vérité. Il était plus important de raconter que de dire vrai, sauf quand il parlait de choses sérieuses, mais là il parlait très très sérieux.
Alors justement, Joseph, moi la question que je voulais te poser aussi, c'était quelle réception finalement pour cette revue Planète ? Parce qu'on entend bien ce que dit Gérard, donc pourquoi cette revue a quand même eu du succès, comme d'ailleurs Le Matin des Magiciens, et aujourd'hui, pourquoi rééditer justement les textes de Jacques Bergier ?
Alors, c'est deux choses tout à fait différentes. Le succès de la revue Planète a donné lieu à plusieurs travaux, enfin, des tentatives d'explication du succès. Je pense qu'il y a, dans le paysage culturel du temps, Planète est apparue comme quelque chose qui faisait découvrir. Ça, c'est un témoignage qu'on a régulièrement des jeunes gens qui ont lu Planète à l'époque. Hein. Ils disent tous « Ah, mais c'était... » Ça nous changeait de la grisaille habituelle, ça faisait rêver, il y avait des trucs extraordinaires dedans. Je crois que peut-être qu'il faut se replonger dans le, on va dire, je sais pas, on dit aujourd'hui l'offre culturelle du temps, hein, en 1960. Et c'est vrai que pas mal de revues autour apparaissent comme un peu tristes par rapport à Planète. Il y a quelque chose. Il y a une espèce de bouillonnement dans Planète. Les témoignages sont nombreux. Il y a eu des travaux là-dessus. Il y a eu d'ailleurs un travail fait sur Planète, édité à l'œil du singe. J'en ai oublié brusquement le nom de l'auteur. Je crois qu'on revient aussi un peu. J'ai eu l'occasion de refeuilleter l'ensemble des numéros de Planète pour en faire le sommaire. Ce qui est amusant, c'est qu'on finit par on finit par prêter à Planète des tas de défauts enfin, on les exagère beaucoup finalement quand on relit les textes. Bon, il y a un certain nombre de textes qui sont hautement farfelus, hautement ambigus, tout ce qu'on veut, complètement faux. Bon, enfin, finalement, il y a pas mal de choses qui sont aujourd'hui assez banales. C'est pas peut-être que le problème a été dans Planète la personnalité de Powell. Je pense qu'il y a dû aussi ce côté un peu, cette espèce d'arrogance dans Planète n'a certainement pas aidé, aidé à la réception. Il y a des positions qui se sont crispées quand même, et Powell s'était fait à l'époque quand même beaucoup d'ennemis. Je pense que ça a joué aussi. Alors, avec plus le manque de sérieux, non, ça a provoqué toutes ces polémiques. Je reviens juste à un petit détail concernant les talents de berger, de lecture rapide. Alors, justement, comme disait Gérard, dans Planète, on n'avait pas peur de raconter des trucs fous. Il y a une très belle mise en scène, hein, cette photo donc, sélectionnée pour faire la couverture de ce recueil-là, qu'on va passer par là, on voit une expérience très sérieuse où on analyse la formidable mémoire de Berger. On voit que c'est très sérieux d'ailleurs, puisqu'il y a deux personnages avec des blouses de scientifiques derrière, Berger devant, une espèce d'écran bizarre, un autre personnage qui manipule une manette. Et là, on nous explique qu'on est en train d'analyser la formidable capacité de mémoire de Jacques Berger. C'est très très sérieux. Et on ne peut pas s'empêcher d'imaginer Berger rigolant intérieurement en participant à cette séance de photos. Bon, bah, c'est pas bien méchant. C'est drôle, moi je trouve ça assez drôle. Mais ça a énervé beaucoup de gens. Ça a énervé beaucoup Planète. Hein. Ça a énervé.
Ouais, je crois qu'une grande partie du succès de Planète, succès qui a conduit par exemple à Edgar Morin, à se fendre d'une, je crois bien que c'était une double page dans Le Monde, et très favorable, je n'ai pas relu ça dans cet article, je ne suis même pas sûr de regarder, mais je crois que le succès de Planète a été lié en grande partie à la confusion qui régnait dans Planète et dans les esprits. C'est-à-dire, nous sommes à une époque où on n'est pas encore, et l'est-on aujourd'hui, dégagé de toutes sortes de superstitions et d'idées bizarres. On n'est pas tellement loin du Denis Saura, du règne des géants que Berger a pourfendu. Il va sortir de tout ça la collection noire, les énigmes de l'univers chez Lafon, puis d'autres collections ailleurs, qui traitent de absolument tout, enfin et n'importe quoi. C'est donc une confusion entre. Entre donc ces croyances, enfin, ces superstitions, ou cette méfiance, si je puis dire, si j'ose risquer le néologisme, et puis un véritable intérêt naissant pour la science. C'est une époque où il y a la bombe atomique, il y a l'énergie atomique, on se rend compte que la science va apporter des bouleversements considérables, même si on ne sait pas encore très bien lesquels. Et la Planète joue très habilement sur cette confusion entre du vieux et du nouveau, même du à venir. Et en effet, quand j'ai relu le matin Les Magiciens, il y a 3 ou 4 ans, je l'ai relu très attentivement et j'ai été finalement beaucoup moins choqué que quand je l'avais lu la première fois. Il faut dire aussi qu'il a passé beaucoup d'autres livres et beaucoup d'eau sous les ponts depuis. Alors encore une fois, j'insiste à l'aspect confusion, et j'aimerais bien relire l'article de Morin pour voir s'il y avait été sensible. Alors, il y a un côté aussi, il y a un côté qui est important et qui d'ailleurs serait plutôt positif, il y a un côté ouverture. Parce qu'il y avait quand même à l'époque beaucoup de porte-parole du milieu scientifique, je pense nommément à Marcel Boll, qui était resté dans un positivisme extraordinairement étroit. J'ai participé à plusieurs émissions de télévision en tant qu'écrivain de science-fiction à l'époque à propos de la question « Y a-t-il des extraterrestres ?» La réponse des astronomes qui étaient là, c'était « Non, non, nous sommes seuls dans l'univers, enfin, etc. » Bon, aujourd'hui, j'ai participé à d'autres tables rondes beaucoup moins souvent. Et avec des astronomes, ils disent exactement le contraire. Ils disent qu'il est totalement invraisemblable que nous soyons seuls dans l'univers. Bon, quant à les rencontrer ou qu'ils viennent nous voir, c'est une autre paire de manches. Mais à l'époque, enfin, enfin, donc, il régnait cet esprit assez étroit, et que d'ailleurs, il n'y avait pas que Bergy à combattre, le Lyonnais n'était pas égoïste, et bien d'autres. Mais enfin, cette planète donnait l'impression d'ouvrir les fenêtres. Tout simplement, c'était des fausses fenêtres.
Il y avait une citation que j'avais notée justement dans le Matin des magiciens, dans le chapitre qui est consacré donc à Charles Fort, en disant justement que pourquoi aller dans ces recherches, dans cette espèce de faille dont parlait Gérard, entre finalement une science qui est en train de se réaliser et puis des fantasmes de science et puis un positivisme qu'on remet en question. Un énorme effort, nous dit Powels ou Bergier. Non, peut-être pour penser le réel dans sa totalité, mais pour empêcher que le réel soit pensé de façon faussement cohérente. Une rupture essentielle. Charles Fort disait « Je suis un temps qui harcèle le cuir de la connaissance pour l'empêcher de dormir ». Vous voyez, donc peut-être que... Bon,
c'est... Oui, enfin, écoute, je connais bien l'œuvre de Charles Fort, voilà. J'ai lu les 4 volumes dans le texte anglais, et il faut quand même bien voir que Charles Fort était un journaliste américain sensationnaliste, et amateur de humbug, c'est-à-dire de plaisanterie. Il ne faut pas non plus prendre la charge forte.
Non.
Et c'est ce qui fascinait Bergier. Enfin, c'est ce qui fascinait Bergier.
C'est l'idée.
Mais il n'y a absolument rien, pas l'ombre d'une réflexion scientifique ou même d'une question un peu intéressante chez Charles Fort. Simplement, il a collectionné des milieux de faits bizarres. Je crois que d'ailleurs il n'y a que deux titres qui ont été traduits sur les 4, et d'ailleurs les deux autres, en particulier un sur un dialogue sur les mutants, enfin les poils extrasensoriels, etc. Mais enfin, c'est un tissu d'ânerie, mais ça amusait beaucoup, c'est au niveau de la collection L'Homme de l'Univers chez Lafont. Mais ça amusait beaucoup Bergier, ça je comprends tout à fait que ça amusait beaucoup Bergier. Et le lien avec Lovecraft et avec les écrivains Werther, c'est évident. Et Fort d'ailleurs en était probablement conscient, mais ne l'ayant pas rencontré, je ne l'affirmerai pas.
Bien. Peut-être, Joseph, on va repartir sur l'autre question. Pourquoi rééditer justement les textes de Jacques Bergier aujourd'hui? Quel intérêt?
En fait, oui, quel intérêt? En fait, c'est un intérêt. Pour moi, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure sur le fait qu'on n'y a pas toujours conscience de l'importance, même pas du tout, conscience de l'importance de Bergier dans le développement de la science-fiction en France. Hein. C'est une espèce de catalyseur, enfin encore que le terme de catalyseur, j'aime bien, n'est pas tout à fait ça. C'est vraiment quelqu'un qui indique des choses, qui indique des auteurs, des pistes. Pour moi, c'est un personnage vraiment, effectivement, très important dans le développement de la science-fiction en France. Et je pense qu'en rééditant ces textes-là, bon, ça s'adresse à des amateurs éclairés, c'est-à-dire qui savent prendre un petit peu de distance. De toute façon, il y a beaucoup de notes pour essayer d'expliquer un maximum de choses. Alors, Sobi, en fait, a deux choses. Expliquer, montrer aussi, je trouve que c'est assez intéressant, comment s'est construit, comme on le disait tout à l'heure, Le Matin des magiciens à partir de collages, parce que quand on lit toute une série de textes de Bergier qui sont souvent des introductions pour la collection que dirigeait Powels, qui s'appelait la Bibliothèque mondiale, c'est ça, voilà, dans laquelle Bergier faisait des introductions sur tout n'importe quoi, y compris, il avait fait sur l'art d'aimer d'Ovide, il avait fait une introduction ahurissante dans laquelle il citait le fameux rapport, sur la vie sexuelle des Américains, j'ai oublié le nom. C'est hilarant à lire tellement ça n'a aucun rapport avec Ovid, mais c'était un prétexte pour Bergier, il avait envie de parler de ça, il ramène de manière farfelue le rapport à propos de l'art d'aimer d'Ovid. Voilà, bon. Et il y a plein de trucs comme ça qui sont très amusants, où Bergier s'amuse, il tire un fil, il raconte des trucs. Alors parfois il y a des erreurs, des déformations, tout ça, mais parfois il y a des points de vue astucieux. Donc ça permet de dire, si vous lisez ces préfaces, ces textes de Bergier, comme ça, recueillis comme ça, enfin, c'est un peu surprenant, c'est étonnant, c'est ceci, cela, mais on n'est pas plus choqué que ça. Par contre, quand on va lire Le Matin des magiciens, ça va donner une impression bizarre. C'est que, effectivement, Powels, il en a fait autre chose hein, de cette base d'informations à la Bergier. Hein. Donc ça permet de voir comment ça s'est construit. De toute façon, je pense que... comment dire ça Oui, donc c'est important de rappeler le rôle de Berger hein, pour les historiens de la science-fiction aujourd'hui. C'est un personnage qu'on ne peut pas évacuer. Et il oblige, comme on le disait tout à l'heure, à se poser des questions sur les conditions du surgissement de l'ASF, enfin, en tout cas, l'ASF américaine après la guerre en France, hein, de l'état des lieux, de l'environnement culturel qu'il y avait, finalement, de la chance qu'il y ait eu un personnage comme Berger, en fin de compte, qui a un peu initié les choses, hein, qui a un peu secoué, parce qu'autrement, le paysage n'est pas si brillant. Bon, Gérard Klein faisait remarquer qu'il a été largement à l'origine de la création de la revue Fiction. Essayons d'imaginer une histoire de la science-fiction en France sans la revue Fiction. C'est un peu effrayant.
Oui, ce que je voudrais dire, c'est que l'intérêt de Berger, de tout ce milieu, y compris celui du Matin des Magiciens, Planète et toute la suite, ça, et puis toutes sortes d'autres textes plus ou moins farfelus, mais ça déborde largement le champ de la science-fiction. Je crois que c'est très important, ça serait très important de l'étudier d'un point de vue sociologique sur l'état de la pensée, et pensée populaire, mais pas si populaire que ça, en France à l'époque. Je crois qu'on ne peut pas comprendre la France des années 50 et des années 60 en faisant l'impasse sur ce genre de choses, sous le prétexte que ce n'est pas sérieux. Peut-être pas sérieux, mais ça a eu une influence considérable. En tout cas, ça reflète l'inquiétude, les soucis, le souci de découverte d'une société, il ne faut pas l'oublier aussi, est affrontée à la guerre terrible, la guerre d'Algérie. Alors, ça y est, je crois qu'il va y avoir passé 2 ans. Et donc, c'est le fait qu'on réédite ces textes et qu'on les publie avec tout le soin dont Joseph est capable, ça me paraît être constitué autant de documents très importants pour comprendre l'esprit d'une époque.
Voilà. Bien, ce sera, je pense, le mot de la fin en ce qui concerne notre table ronde. Et donc, on va laisser la parole au public si vous avez des questions à poser à vos invités. Oui.
Oui, s'il vous plaît, sur le manque de reconnaissance de Berger dans l'histoire de la science-fiction française, il y a une impression, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il a loupé un virage de la science-fiction? C'est-à-dire, moi, j'ai commencé la science-fiction avec Van Vogt, Bradbury, Asimov. Mais je suis vraiment devenu amateur au milieu des années 60 avec Dick, Silverberg, Ballard, Moorcock, des gens comme ça. Et moi, à l'époque, pour moi, Berger, c'était entre guillemets la vieille science-fiction. La collection d'Albin Michel dont on a parlé, c'est pratiquement les bouquins que je lisais en dernier quand j'avais lu tous les autres. Quoi, parce que j'ai l'impression que c'était vieux au fond d'Asimov. Je crois qu'il y a eu un Philippe Dick dedans, mais je ne sais pas pourquoi. Sinon, il y avait toute la série des Fulgures. Enfin, c'était.
Dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui est tout à fait vrai, tout à fait fondé. Par exemple, Berger n'était pas du tout admirateur de Bradbury. Il ne comprenait pas très, très bien tout cela qu'on faisait autour de Bradbury. Je me souviens de conversations animées là-dessus à la balance. D'un autre côté, la collection chez Albin Michel, il ne faut quand même pas oublier qu'elle était essentiellement dirigée par Georges Gallet, et qu'elle reflétait probablement beaucoup plus les goûts de Gallet que ceux de Berger. Enfin, Berger était indéniablement un tenant de la vieille science-fiction. Je ne crois pas qu'il ait été un fanatique de Philip K. Dick, certainement pas, même peut-être pas de Van Vogt, enfin, je ne peux pas dire, hein, je ne sais pas. Il appréciait beaucoup Asimov, pour autant que je me souvienne, pour les autres, je ne sais pas. Mais il faut voir aussi qu'entre les débuts, donc au début des années 1950 en France, de l'apparition de la science-fiction américaine, de la renaissance de la science-fiction française, et les années 60 et la fin des années 60, il s'est passé beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de temps. Et Berger n'a plus du tout dans le coup de l'édition de science-fiction dans les années 60, enfin, sauf dans sa collection avec Gallet. Bon, puis moi j'interviens en 69 avec Irelvin, qui précisément va largement introduire cette nouvelle science-fiction. Enfin, pour autant que je me souvienne, ça remonte à 50, 60 ans, par exemple, c'est un peu difficile, mais je pense que Berger aimait bien Fritz Leiber ou des écrivains comme ça. Donc c'était pas aussi tranché que ça. Puis après, ses goûts, c'était varié.
Oui, monsieur.
Excusez-moi, mais peut-être pas une question, mais une réflexion. Je l'ai souligné sur la revue Planète. À mon avis, elle était typique d'un certain nombre de revues de l'époque où il y avait bénéficiait pas d'une ligne éditoriale fixe. À côté de Planète, il y avait tout un tas de littérature dite underground, je pense notamment actuelle de Jean-François Bizot. On trouvait effectivement tout et n'importe
c'est
quoi.
Plus tard, hein,
c'est plus tard. Plus tard.
Dans les années 70.
Oui.
Actuel, le premier actuel. Dans les années 70.
Oui, 70, mais oui. Parlons là des années 50, c'est oui. 20 ans.
Planète,
après.
C'est 61 ou 62, je ne sais plus, 60.
Oui, pas 10 ans. Mais il y avait quand même un bouillonnement culturel, et moi je me souviens que dans Planète, j'ai découvert Borges, par exemple.
Oui, mais très tôt,
par exemple, pour parler du goût et du meilleur goût de Berger, très tôt, Berger avait repéré Borges. Et en disant que c'était un des plus grands écrivains du XXe siècle, il avait totalement raison. Ça fait... Comme quoi, parfois, il était sensible au style, surtout au style.
Oui.
Oui, Joseph a évoqué la correspondance entre Versin et Berger. C'est assez étonnant, leur histoire, enfin, d'après ce que j'en connais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un initiateur, entre autres, Messac, qui a compté simplement beaucoup pour Versin, mais Berger avait aussi une histoire commune avec Versin, oui. Avec la déportation, par exemple.
Oui.
Et puis tout d'un coup, il y a eu une grouille terrible, une grouille alors des lèvres à mettre, de modes de pensée différents. Oui. Le sens de l'humour de Versin était très spécial aussi, mais c'était manifestement pas le même que celui de Berger. Ouais.
Mais la brouille, effectivement, qu'on voit dans cette correspondance, et que vous découvrirez dans quelques semaines, hein, le mois prochain, enfin bon, le livre va bientôt finir par sortir tout de même. Hein. Est assez surprenante parce que j'ai longtemps pensé que la brouille venait de la guerre d'Algérie, de l'interprétation que en avait l'un et l'autre, Berger prenant nettement le parti de la frange qui s'imagine qu'il pourrait y avoir une Algérie française et qu'on pourrait régler le problème militairement et finalement, voilà, bon, il avait pris ce parti-là, un peu discours. C'est pas évident de savoir pourquoi d'ailleurs.
Bon, c'était celui de Powell.
Oui, voilà, c'est ça. Mais dans le cas de Berger, bon, enfin bon. Et alors que c'était absolument pas l'idée de Verset et tout à fait. Et à l'époque, tous les deux écrivent ensemble. C'est-à-dire que Pierre Versin essaye d'écrire des nouvelles de science-fiction et Berger lui donne des idées. Alors c'est amusant. On voit dans la correspondance, on voit les petits trucs. Ça marche très bien. Versin est ravi des idées que lui donne Berger. Tout va très bien. Et donc à un moment donné, il décide d'un commun accord. Versin décide de signer que de son nom un texte parce que le texte a des connotations politiques qui ne vont pas dans le sens de Berger. Et ça se passe. Quand on lit le courrier, ça se passe très bien. Berger comprend très bien, il n'y a pas de problème, il dit c'est mieux comme ça, vaut mieux que vous signiez vous-même, et puis bon, comme ça, il n'y a pas d'histoire. Donc, c'est pas à ce moment-là que se produit la rupture. Hein. Elle se produit au moment, non pas du Matin des magiciens non plus, dont Versin fait une recension qu'on trouve là-dedans au moment de la fameuse époque de la controverse dans fiction. Versin fait une très bonne recension du Matin des magiciens. C'est pendant la période Planète. Et là, il se passe des trucs dans la période Planète que je ne connais pas. Mais il y a des problèmes éditoriaux, un embrouillamini qui fait qu'à un moment donné, il y a une vraie rupture. Et elle est de la part de Berger, qui n'est pas content, qui lui envoie une dernière lettre disant « ça suffit comme ça voilà, ». Et il s'est passé des choses un peu étranges, un peu comme... En fait, on a l'impression que Versin se plaint d'être publié dans Planète sans son accord. Enfin, mais c'est raconter, bah, tu verras quand tu liras, si tu es un patient, je te passerai le document avant, quoi, tu vois ça, voilà. Hein. Voilà, tu pourras corriger des fautes. Ouais. Et c'est étonnant parce que j'ai du mal à voir quel est le problème. On a l'impression que Versin râle sur quelque chose, Berger ne comprend pas bien, je ne vois pas bien ce qui se passe. À un moment donné, il y a une fâcherie. Mais là, on est en 1965.
On n'est pas du tout à l'époque du matin des magiciens. Ouais. Il s'est passé pas mal de choses. Voilà, bon, ça c'est un détail à...
Je vois qu'on fait signe là que ça va être, ça va être terminé, ça va être là. Mais juste...
Oui. Un petit détail sur Marcel, Saint-Bertier, qui a pu être manqué selon les chefs, c'est qu'il y a spécialement une nouvelle de Versailles, mais qui parle tout seul, que Planète a republié en changeant de titre et en changeant de nom.
Ah ben, ça donne une bonne explication.
Oui, merci, Pascal.
Parce que j'ai très bien connu les deux. J'ai très bien connu Bergier, j'ai très bien connu Versailles. Je crois que ça, c'est... Je n'ai jamais compris les raisons de l'embrouille. Je partage entièrement l'opinion de Joseph. Et, mais alors, Versailles était chatouilleux sur ses textes à un degré absolument inimaginable. Si par hasard, on en mettait une virgule, il vous convenait à mort. Enfin, sans délimitation, il vaut mieux. Donc, je pense que ça... Parce que les gens de Planète, ils patouillaient les textes dans toutes les dimensions, ils les raccourcissaient, ils en tiraient, fait que ça rentre dans la page. Enfin, d'un roman entier, dans un roman, ils ont fait une nouvelle de trois pages.
Un roman entier, non, mais ils ont bien coupé la...
Une longue nouvelle, disons. D'ailleurs, je me suis plusieurs fois disputé avec Jacques Sternberg à Spambourg, parce qu'il faisait la même chose dans ses anthologies. Enfin, nos disputes restaient amicales, je le dis tout de suite. Mais c'est très, très possible que ça a été le point de départ de la brouille, la façon dont un texte de Versailles était maltraité dans Planète. Et là, Bergier et Jean de Planète ne devaient absolument pas comprendre, savoir ce type d'attitude.
Je crois qu'on avait une dernière remarque, je ne sais pas si... Oui.
Savez-vous si Bergier a réagi justement à la création de son personnage par Bergier ?
Oui, enfin, il y a plusieurs, je crois qu'on... Oui, il y a plusieurs... Il y a des interviews où il est absolument ravi de ça, bien sûr. C'est un triomphe, oui, il est tout à fait ravi d'être caricaturé. D'ailleurs, dans l'album d'Hergé, il est présenté comme un des spécialistes de la revue Comète. Non, il était ravi d'avoir été. Il en parle, je crois qu'il en parle dans ses mémoires. Il est très content d'avoir été caricaturé. Bergier et Hergé. Ah, ça, je n'oserais pas dire. Je ne sais pas. Ah, je vais vérifier. Je suis pas sûr d'être.
Oui, ça se sera vérifié.
Oui, je suis pas sûr d'être tombé sur une référence manquée là-dessus. Enfin, il faudrait. Si elle est claire, elle sera claire du côté d'Hergé, hein, mais pas du côté de Hergé.
Merci beaucoup de votre écoute.